8h-9h, format 3, Sarah, Joël et Jean-Michel.
D'après les statistiques 2013 en Suisse, 40% de la population vivait dans un ménage avec un type de dette, que ce soit un leasing, un petit crédit, des achats par acompte, un emprunt auprès de la famille ou d'amis, des arriérés de paiement, des couverts bancaires ou encore des impayés sur carte de crédit.
Que faire lorsque les fins de mois s'avèrent difficiles? Que faut-il payer en premier? Qu'est-ce qu'on risque si on accumule trop de rappels?
Réponse ce matin avec Sébastien Mercier, secrétaire général pour Dette Conseil Suisse. Bonjour Sébastien Mercier.
Bonjour.
Alors, les raisons de l'endettement en Suisse, c'est qu'on n'a vraiment pas assez d'argent pour vivre ou est-ce qu'on ne sait pas le gérer correctement?
Je dirais que c'est un petit peu plus compliqué, c'est surtout une perte d'équilibre hein, au niveau du budget. Souvent, les gens, soit par choix, soit par nécessité, vivent à flux tendu, c'est-à-dire tout ce qui est dépensé, enfin tout ce qui est reçu en un mois est dépensé le même mois. Et puis, le jour où vient un impondérable, hein, que ce soit un accident, une maladie, éventuellement un divorce, les charges augmentent ou les revenus diminuent hein, si on perd son travail. Et puis, la spirale du surendettement s'ouvre en fait hein, par ce déséquilibre budgétaire.
Et vous nous disiez tout à l'heure que la plupart de ceux qui viennent vous consulter, les premières factures qu'on ne va pas payer quand on est pris à la gorge, c'est celle des impôts.
Ça, c'est le bon vrai réflexe qu'ont les gens, mais c'est vrai qu'ils sont dans une phase de stress. Donc la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est supprimer ce stress. Donc là, on va utiliser l'argent qu'on a à disposition pour le donner aux créanciers qui aboient le plus, si vous me permettez. Et puis là, c'est vrai que quand on voit l'attitude de certains créanciers, typiquement ceux qui sont représentés par des maisons de recouvrement, on comprend aussi que les gens ont envie d'avoir la paix. Après, par contre, c'est vrai qu'une fois que la facture fiscale arrive, on n'a juste pas les moyens de le payer. Et puis, c'est le début de la chute. Il y a avec, en plus, je dirais, une réalité qui est assez choquante. C'est que souvent, les gens, ils ont tellement peur après d'avoir une poursuite qu'ils vont souvent se laisser aller faire un crédit pour payer leur facture d'impôt. Puis avec à peu près 15% d'intérêt à l'heure actuelle sur le crédit à la consommation, on a la paix pendant un petit moment, mais on creuse, ça tombe un peu plus profondément.
On repousse le problème, en fait.
On repousse le problème et on l'aggrave.
Donc si on est endetté, il faudrait payer quoi en premier, à votre avis?
Je dirais qu'il faut surtout prendre du recul sur sa situation et puis ne pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin. Après, il y a des factures qu'il faut justement payer en priorité. C'est typiquement l'électricité. Parce que là, on peut vous mettre un compteur qui va, un compteur après paiement que vous devez louer, qui va encore vous rapporter des frais. Il y a tous les besoins de base, hein, le loyer et l'assurance maladie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est saisi, hein, quand on est mis aux poursuites, si on ne paye pas son loyer, on va avoir une saisie qui va nous retirer les moyens de continuer de payer le loyer. Donc on va finir expulsé assez rapidement.
Alors, on peut avoir un problème, un mois ou deux, on peut avoir un oubli. À partir de quel moment est-ce que ça devient réellement un problème? Quelle est la sonnette d'alarme?
Je dirais la régularité pour moi est un signal. Hein. Si chaque mois on est un peu coincé, puis on doit jongler, on se dit « Ah, cette facture, je la laisse pour le mois prochain, et puis j'utilise cet argent pour celle-ci, etc. » Là, je crois qu'il y a effectivement un problème. C'est un petit peu comme quand on veut arrêter de fumer. Hein. Au début, on a « Oh, mais j'ai pas de problème du tout. » Après, on commence un petit peu à tousser, on se dit « Ouais, mais c'est pas très grave, de toute façon j'arrête quand je veux. » Et puis jusqu'à un moment donné, où tout d'un coup on se rend compte, peut-être par l'aide d'un médecin, que non, ça va plus, il faut arrêter, là on commence à essayer de se donner les moyens. Après, c'est pas simple non plus.
Est-ce qu'il y a une tranche de la population qui est davantage concernée?
Écoutez, à mon avis, non. On parle souvent des jeunes, et puis c'est vrai que là, je pense qu'on a effectivement du souci à se faire. Après, pour l'instant, statistiquement, c'est pas vraiment démontré. Par contre, ce que nous, on voit dans notre pratique, c'est que les gens viennent très, très tardivement. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont surendettés depuis 6, voire même plus de 10 ans. On a des fois des gens qui viennent nous voir avec des extraits de poursuites d'une quinzaine de pages.
Est-ce qu'on peut contester des frais de rappel quand on en reçoit? Et si oui, dans quelles circonstances?
Alors ça, c'est un piège qu'on voit fréquemment, c'est-à-dire que les frais de rappel, si votre contrat les prévoit, normalement vous devez les payer, c'est le cas notamment avec l'assurance maladie, hein, si c'est prévu dans les conditions générales. Après, il y a beaucoup de frais qu'on appelle des frais supplémentaires, des dommages supplémentaires, des frais sans ICO, il y a mille et une dénominations pour ça. Là, on entre dans une zone grise, et puis je dirais typiquement, quand on a affaire à une maison de recouvrement, on devrait regarder ça précisément, parce que en tout cas, la moitié des frais, voire plus, sont généralement injustifiés.
justement, c'est fixé de manière assez arbitraire par l'institution qui nous les donne. On n'est pas toujours sûr si c'est légal ou pas.
Alors voilà, ça devient, c'est ça qui est un peu le problème, c'est quelque part. Moi, je suis juriste, des fois, j'ai un petit peu, je dois faire des recherches pour m'en sortir. Donc le commun des mortels, lui, il n'a pas forcément les outils que j'ai. Et puis, ben, c'est vrai qu'on se fait bouffer à longueur d'année, je dirais, par ce genre de créanciers. Donc pour moi, il est vraiment important de chercher des informations. Il y a par exemple la ligne de Caritas qui peut donner des informations, je dirais, gratuitement pour savoir quels sont les frais qu'on peut mettre de côté et ceux qu'on ne peut pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand on entre dans ce jeu-là, effectivement, les maisons de recouvrement n'ont pas envie de lâcher la grappe, donc elles vont vous tanner le cuir pendant un moment. Hein.
C'est nouveau, ces sociétés de recouvrement qui vont harceler les gens par téléphone, au domicile, et puis avec évidemment des frais, certains justifiés, d'autres, vous l'avez dit, qui ne sont pas toujours justifiés. C'est un phénomène relativement récent.
J'ai pas l'impression, non. Moi, c'est quelque chose que je vois depuis que je travaille dans le domaine, donc depuis plus de 12 ans. Après, par contre, j'ai l'impression que ça pousse un peu comme des champignons. Hein. Faut se rendre compte, c'est assez dégueulasse quand on y pense, c'est que le surendettement, c'est devenu un marché. On voit justement ces maisons de recouvrement, mais on voit aussi des commerciaux qui offrent soi-disant des plans de désendettement. Et puis en fait, il m'arrivait régulièrement de voir des personnes qui avaient affaire à ce genre de société qui ont augmenté leur surendettement de 10 000, 20 000 francs.
Format A3.
Il vaut mieux gagner son argent d'abord et le dépenser ensuite. Tout le monde est d'accord sur le principe, mais reste qu'en Suisse, 40% de la population vit dans un ménage avec au moins un type de dette.
Alors, il faut distinguer les petites et les grosses dettes. Sébastien Mercier, je rappelle que vous êtes secrétaire général pour Dette Conseil Suisse. Par où est-ce qu'il faut commencer si on veut se remettre dans le noir ?
Alors, il faut commencer par faire table rase, je dirais, faire vraiment prendre du recul, regarder quels sont les moyens qu'on a à disposition, quels sont les engagements qu'on a pris, et puis quel est le montant des dettes. Hein. Puis une fois qu'on a un regard complet sur la situation, c'est vrai que dans nos offices, on a tendance aussi on suit la personne pour essayer de comprendre pourquoi elle est arrivée au surendettement. Parce que si elle est arrivée là-dedans juste parce qu'elle avait eu un problème de santé ou quelque chose comme ça, là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, si le problème est lié à un problème de dépendance, là, il faudra aussi stabiliser la situation. Et puis après, une fois qu'on a un topo complet sur la situation, là, on peut commencer de négocier avec ses créanciers. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui, dans le stress, acceptent des arrangements proposés par les créanciers, qui sont généralement avec des espèces de reconnaissance de dette, justement, qui essayent d'intégrer des frais qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et puis, les gens finissent par promettre beaucoup trop à leurs créanciers, donc ils n'arrivent pas à suivre non plus. Puis ça, c'est vrai que ça énerve considérablement les créanciers, donc c'est vraiment quelque chose à ne pas faire.
Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels les dettes se payent plus cher que d'autres ?
Ouh.
Leasing de voiture, assurance, immobilier
Alors, tout ce qui est crédit à la consommation a des taux d'intérêt assez monstrueux. Hein. Si on prend les cartes de crédit, les cartes de clients et les petits crédits, là, on touche en général proche des 15%. Donc là, ça peut valoir effectivement très cher hein, sur la durée. Après, il y a des créances, si on ne les paye pas, ou il y a d'autres conséquences qui peuvent être liées. On voit beaucoup de gens qui, dans l'urgence, essayent de jongler avec les remboursements de leur caisse maladie, mais quand on ne paye pas son médecin, au bout d'un moment, celui-ci, il n'a plus forcément envie de vous recevoir. Donc on peut, il y a toutes sortes de catégories de dettes, je dirais, qui peuvent avoir des conséquences assez importantes, ou comme celle de l'électricité dont je parlais tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a aussi un problème d'organisation, tout simplement, parfois on a ses factures éparpillées dans toute sa maison, on ne sait plus où donner de la tête ?
Alors pour certaines personnes, c'est effectivement à la base du surendettement, hein, je dirais soit un problème de compétence, soit ils ont l'argent qui leur brûle les doigts. Après, il y a un moment donné aussi, quand on a perdu le fil, qu'on a perdu le contrôle, je crois que là, les problèmes de gestion s'ajoutent, parce qu'on ne sait plus où on en est à force de jongler, à force de se dire, tiens, je prends un peu là pour donner là, etc., et ainsi de suite. Et puis là, les gens, c'est vrai que des fois, au bout d'un moment, ils développent ce qu'on appelle la peur de la boîte aux lettres, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils vont ouvrir leur boîte aux lettres, ils trouvent des factures, alors pour finir, soit ils vont plus l'ouvrir, soit ils mettent tout à la poubelle directement, soit ils mettent dans des sacs. Quand on commence un désendettement, quand quelqu'un vient nous voir pour la première première fois, c'est assez régulier qu'elles viennent avec des corbets, des gros cornets remplis de factures non ouvertes.
Vous parliez justement de l'argent qui brûle les doigts. Sur votre site, vous mettez en garde contre l'argent facile, comme les crédits à consommation, justement, dont on vient de parler. Ce serait le plus simple, ce serait justement de ne pas se laisser tenter par tout ça, en fait.
Alors, ça peut être le plus simple. Après, des fois, ça peut être aussi une idée, je dirais, intéressante. Je ne sais pas, vous venez d'avoir un job, vous avez besoin de la voiture. Si vous ne prenez pas une voiture, vous n'avez pas le job. C'est vrai que des fois, on peut se poser la question. Est-ce qu'un leasing ou un crédit peut être intéressant? Après, ben, il faut aussi voir en fonction de ses moyens. On n'a pas forcément besoin d'une Porsche pour aller au travail.
Est-ce qu'il y a une astuce d'économie toute simple dont chacun bénéficierait, Sébastien Mercier?
Alors là, pour les économies, ben, c'est quelque chose d'assez vaste. Hein. On peut se poser la question des primes d'assurance maladie. Typiquement, chaque année, elles augmentent. On peut faire un choix pour les baisser, pour autant qu'on n'ait pas d'arriérés. Et là, on voit aussi que notre système tend des pièges. Parce que si vous avez ne serait-ce que 50 centimes d'arriérés à la fin de l'année, vous ne pouvez pas changer de caisse maladie. Donc, vous ne pouvez pas faire d'économies. Après, ben, y a toutes sortes d'économies. Pour moi, le piège à éviter, c'est de faire des économies sur la nourriture. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gens se disent, bon, ben, tiens, je me serre la ceinture, un mois, deux mois, trois mois pour finir, ils feront 3-4 ans en mangeant du riz et des pâtes, et puis après ben, ils ont des carences, ils commencent à tomber malades et puis il y a d'autres problèmes qui s'en suivent. Je crois qu'il est important vraiment que les gens se remettent au centre et puis reprennent leur pouvoir de décision et puis tiennent compte d'eux, prennent soin d'eux. Je crois que ça, c'est vraiment important.
On vous remercie beaucoup pour ces conseils. On parlait de dette ce matin avec vous. Sébastien Mercier, secrétaire général pour Dette Conseil Suisse, remettra toutes ces informations sur le site de Format A3. Très belle journée.
Merci de même.
Au revoir.
Au revoir.
A3, c'est plus sympa. Format A3.